Sam Travail, la chronique où le travail se raconte et se comprend.
Et si votre boulot racontait l'histoire d'un monde qui change ? Bienvenue dans la chronique de Sam Travail, un espace où les récits des travailleurs et des travailleuses deviennent des miroirs de nos mutations collectives. Pendant 15 minutes, deux fois par mois, on entre dans le vécu du travail. Je vous livre des récits que j'ai collectés, un peu de théorie pour éclairer tout ça, et je vous propose d'écouter, de comprendre et peut-être parfois de vous reconnaître dans ces histoires où le quotidien du travail croise les grandes transformations de notre époque. Aujourd'hui, je vous propose de vous parler de Nadia. Elle est venue me voir pour me parler d'une expérience qui l'a beaucoup touchée et à laquelle elle continue de penser. Nadia est psychologue et elle a travaillé pendant 6 mois pour l'OFI. C'est l'organisme français de l'immigration et de l'intégration qui relève du ministère de l'Intérieur. Elle y traitait les demandes d'allocation de réfugiés ukrainiens. D'abord, elle me parle du choc de l'arrivée. J'arrive le premier jour avec une autre nouvelle salariée, on rencontre une collègue et on comprend que c'est elle qui va nous former. Sauf qu'elle est arrivée il y a seulement 1 mois. Le deuxième jour, elle est au guichet, donc on était toutes les deux avec mon autre collègue à l'écouter. En fait, on l'a vu accueillir 2 personnes, après on nous a dit « Allez, c'est à votre tour ». Et moi là, je l'ai hyper mal vécu parce que tu te retrouves au guichet à accueillir des personnes qui fuient la guerre, qui sont dans des situations douloureuses. Ils arrivent dans un pays pour beaucoup ne connaissent pas la langue. Et moi, je me disais, mais je suis complètement paumée. Ça doit se voir que je ne suis pas sûre de ce que je fais. Ce sont des demandes d'allocation, donc il faut que tu t'assures que tu as tous les papiers. Parce que déjà, ça peut être long, alors en plus, il manque un papier. Elle apprend qu'il y a déjà 10 personnes qui ont quitté le pôle. Il n'y a quasiment que des nouveaux. Il y avait un turnover et la direction disait « Oh, c'est l'effet générationnel, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent, les jeunes. » Et on ne s'en sort pas, parce que les professionnels sont en permanence renouvelés. Donc, chaque fois, les réfugiés se retrouvent en face de salariés qui n'ont pas les connaissances et donc qui ne peuvent pas donner les bons conseils. Nadia va me raconter l'absence de formation réelle pour assurer correctement ses missions, mais aussi une très forte charge de travail. Des open space, l'absence de traducteur, contrairement à ce qui lui avait été annoncé. Elle me parle aussi du fait qu'aucun soutien n'est apporté aux salariés qui font face à des situations extrêmement difficiles. Ce témoignage est très fort et il contient énormément d'éléments. Je vais y consacrer 2 chroniques. Le focus que je voudrais mettre aujourd'hui sur le récit de Nadia, c'est comment cette situation qui peut sembler très particulière parle des grandes évolutions du secteur public en France. Puisque je le rappelle, Nadia intervient pour un organisme en charge d'une mission de service public. On voit déjà en écoutant son récit qu'on est bien loin de l'image du fonctionnaire poussiéreux, planqué, qui peut être véhiculé parfois dans certains discours. Un petit détail intéressant. En 1945, il avait été créé l'Organisme national de l'immigration, l'ONI, qui relevait du ministère du Travail et qui avait pour objectif de favoriser l'introduction de main-d'œuvre étrangère en France. Au fur et à mesure du temps, ces missions vont évoluer et changer de ministère. Ainsi, en 2009, on va fusionner plusieurs organismes publics pour créer l'OFI, donc l'Organisme français de l'immigration et de l'intégration, où est intervenue Nadia, qui relève non plus du ministère du Travail, mais du ministère de l'Intérieur. On voit que les objectifs ont changé. On voit aussi que les services publics vont être de plus en plus portés par des organismes autonomes, notamment des agences, qui vont très régulièrement se réorganiser, fusionner, défusionner. Ça fait un peu penser au secteur privé, tout ça, non ?
Esto
Dans les années 80, une idée dominante, c'est qu'il faudrait réformer l'État en transposant des outils et des modes d'organisation du secteur privé vers le secteur public qui serait moins performant. C'est le début du New Public Management. Plus globalement, on entre dans l'ère de la gestion. Ces pratiques et ce vocabulaire vont se diffuser dans tous les domaines. Le service public, l'associatif, mais aussi la vie quotidienne. Il y a une injonction à gérer son budget, mais aussi ses enfants, ses vacances, ses émotions. La gestion a une prétention à l'universalité et se présente comme quelque chose qui va rationaliser et aider à simplifier notre vie. C'est aussi la croyance que les chiffres suffiraient à exprimer la valeur des choses. Le langage va ainsi être détourné pour renommer la personne accompagnée et le travail réalisé. On va se mettre à parler de flux, de files actives, d'embolisation, de réorientation. La gestion devient un langage unique qui va se substituer aux règles des différents métiers. On gère des patients comme on gère des familles, des élèves, des équipes, des risques. L'informatisation, c'est un parfait exemple d'outil de gestion. Elle va permettre de standardiser les actes professionnels. Ce n'est plus le professionnel qui détermine comment doit être réalisée la tâche. Il va devoir suivre le déroulé prévu par le logiciel et s'en tenir à ce que celui-ci permet. Dans son travail, Nadia m'explique par exemple que si elle fait une erreur d'orthographe en enregistrant le nom de la personne dans le logiciel, seul le service informatique pourra procéder à la correction. Service qui est joignable uniquement par mail et qui répond en moyenne au bout d'un mois, durée pendant laquelle la demande d'allocation est bloquée. Elle m'explique aussi que l'allocation est calculée par ce logiciel et que lorsqu'elle effectue les calculs elle-même, parfois elle ne trouve pas le même résultat. Et elle se retrouve alors dans l'incapacité d'expliquer la différence aux personnes qu'elle accueille. Et c'est la machine qui a le dernier mot.
Je suis l'ombre sur la mesure, le violent poison à l'écart de tout soupçon. Dans ce sombre récit dont personne se méfiera, il s'agira de sang sur les murs au crépuscule d'une bavure. Je murmurerai la haine, enclavée dans les huppes en région parisienne. L'amour comme rempart à la dérive, au registre de ces âmes charitables plutôt naïves se perd. Donne à ma palabre son caractère, sourire kabyle dans les artères de ma ville. Voilà à quoi l'instinct de malfaiteur, ma foi, se familiarisera. Aux effusions sanguines d'une trop commune routine, la rue se massacre sous le ciel des damnés. N'importe quel trou du cul aujourd'hui est armé. Hier encore, l'ombre d'un regard de travers sur le pavé se dissipait dans un silence de mort. Le crime désormais à la parole trop facile, crois-moi, pour qu'on en rigole de joie sous ces lampadaires qui éclairent la misère. Et si j'exagère, l'obscurité la plus dense n'est jamais loin de la lumière la plus vive. Nourrit ces rumeurs de peur et de paranoïa à des heures tardives sous le tranchant de la lame d'un cran d'arrêt. À vos risques et périls, derrière les guirlandes d'acier d'une maison d'arrêt ou sur un disque vinyle. Considère-moi comme une bombe.
Tu as allumé la mèche
et qui égrène les secondes. Considère-moi comme une pompe.
Tu as allumé la mèche
et qui égrène les secondes.
D'une saison blanche et sèche.
Considère-moi comme une pompe.
Tu as allumé la mèche
et qui égrène les secondes.
D'une saison blanche et sèche.
Considère-moi comme une pompe.
Tu as allumé la mèche
et qui égrène les secondes.
Je suis l'ombre sur la mesure, à la pointe d'une écriture. L'ombre de ces murs aux mille blessures, que des bouches murmurent entre deux rondes furibondes, du bleu criard ou blafard d'un gyrophare. Je tisse ma toile noire sur des cœurs hagards et je traîne mes guêtres sous les fenêtres de ces ruelles qui ont la lèpre. Au carrefour de la cour, des miracles en débâcle, sous les arcades malades ou crises, les voies croisées de la faim et du vice. Je suis l'ombre cercle et grille, rouillé, verrouillé sur une aire où rien ne brille, où les corps se compriment, où la vue décline et où les brigadiers fulminent. Regarde ces silhouettes grises dont les rêves gisent sur le pavé couvert de pisse. Elles poussent toutes la même porte en crachant sur le trottoir de leurs illusions mortes. Nous n'avons à perdre que nos pensées ternes, te diront-elles avec le feu dans les yeux de ceux qui sont prêts à tenter le diable, pourvu qu'ils garnissent leur table et conjurent la misère, le fer et la pierre qui les enserre. Je suis l'ombre sur la mesure, et je sature dans les graves de cette basse qui monte d'une cave parmi la crasse et l'éther d'une trop vieille poudrière.
Considère-moi comme une bombe,
quand tu as allumé la mèche,
et qui égrène les secondes.
D'une saison blanche et sèche.
Considère-moi comme une bombe,
quand tu as allumé la mèche,
et qui égrène les secondes.
D'une saison blanche et sèche.
Considère-moi comme une bombe,
quand tu as allumé la mèche,
qui égrène les secondes.
D'une saison blanche et sèche.
Considère-moi comme une bombe,
quand tu as allumé la mèche.
qui égrène les secondes.
Une saison blanche et sèche.
Souvent, la dimension politique des outils de gestion est occultée. Ce seraient des outils purement techniques, donc totalement neutres. Certains sociologues expliquent au contraire que ces outils constituent en réalité des mécanismes de reproduction de rapports de domination. Ils font ainsi référence au concept de violence symbolique tel que l'a présenté Pierre Bourdieu. Si je devais schématiser ce concept, je dirais que tout part de la question suivante. Comment est-il possible, dans une société, que des inégalités très fortes existent, sans que ça génère un soulèvement des personnes victimes de ces inégalités ? Eh bien, c'est grâce à la violence symbolique, nous dit Pierre Bourdieu. La violence symbolique, c'est un rapport de force dans lequel les groupes sociaux dominants vont imposer leurs critères aux classes dominées qui vont considérer ces critères comme légitimes et comme naturels. Ainsi, la violence symbolique va permettre de maintenir l'ordre social en place sans avoir besoin de recourir à la violence physique. Alors, tout ça, ça se produit de manière non consciente. Ce sont des croyances collectives acceptées par les classes dominantes comme par les classes dominées. Bourdieu va beaucoup parler de l'école dans ses mécanismes. Si on le ramène au monde du travail, globalement, c'est la culture d'entreprise qui va avoir ce rôle de pacificateur, c'est-à-dire amener l'acceptation d'une hiérarchie avec un lien de subordination sans nécessité de recourir à une violence physique. Et les outils de gestion vont participer à ça. Par exemple, le contrôle du travail du professionnel va être assuré non pas directement par la hiérarchie, mais par un logiciel qui va tracer qui a fait quoi et en combien de temps. Et là, on assiste à une désincarnation du rapport de domination, ce qui évite de rentrer dans le conflit social. Ce n'est plus la direction, mais le logiciel qui dicte ce qu'il est possible ou pas de faire et comment on doit le faire. Alors, il ne s'agit pas pour moi de diaboliser l'outil informatique, mais juste d'amener à se poser la question de sa neutralité. Si vous êtes amené dans votre travail à utiliser des outils informatiques, essayez de repérer en quoi ces outils peuvent influer sur votre pratique, voire la contraindre. Vous pouvez peut-être aussi repérer quelles sont vos astuces, les tactiques que vous avez mises en place pour contourner ça. Nous retrouverons Nadia dans la prochaine chronique et nous verrons comment elle va devoir faire face à des dilemmes dans son quotidien. Si vous aussi, vous avez envie de confier à l'association SAM Travail un épisode de votre vécu professionnel, écrivez-nous à contact@frequence7.net. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle chronique. Et d'ici là, ne vous laissez pas trop travailler par le travail.
<t'en>